nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs de Canal Académie, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Nelly Tardivier-Henrault, commissaire générale de l'année de l'Arménie en France. Donc, Madame, nous vous souhaitons la bienvenue sur nos émissions à Canal Académie.
Alors, merci beaucoup.
Pourquoi cette année de l'Arménie en France ?
Alors, c'est une invitation qui est faite à l'Arménie, une invitation qui s'inscrit dans une politique d'invitation de la France qui régulièrement accueille un pays étranger. L'année dernière, c'était le Brésil. Ça a été un très bel événement, on s'en souvient. La Chine a également fait l'objet d'une invitation.
Mais également il y avait le Québec. Hein, c'est une année, il y avait le Québec.
Mais, il y a eu le Québec il y a effectivement quelques années. Il y a eu la Hongrie, il y a eu la Tchécoslovaquie. C'était peut-être déjà la Tchéquie. Enfin, régulièrement, un pays étranger est invité à venir présenter son histoire, sa culture dans notre pays. Donc là, cette invitation à l'Arménie s'inscrit dans cette veine, en quelque sorte.
Et ça remonte à quand, ces invitations de ces années de pays différentes ? Ça remonte à il y a longtemps ?
Une trentaine d'années maintenant. La première année avait été l'année de l'Inde, et qui remonte à une trentaine d'années. Depuis lors, donc, ces invitations ont continué. Elles ont parfois pris des formes un peu diverses. Donc sur les dernières invitations, c'est celles que je vous ai indiquées. Et l'année de l'Arménie a été décidée au plus haut niveau, par les deux présidents de la République, M. Jacques Chirac et Monsieur Robert Khodjarian, qui au cours d'un entretien, il y a maintenant peut-être 2 ans et demi, ça devait être en mai ou en juin 2004, donc maintenant ça remonte à... parce qu'il faut le temps de lancer bien sûr ces événements, et qui avait décidé donc du principe d'une année de l'Arménie.
Et alors, comme bon, les auditeurs ne savent pas exactement forcément ce qui se passe, combien y a-t-il de manifestations dans l'année, de manifestations sur l'Arménie? Combien y en a-t-il à peu près?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On en est à au moins 700 manifestations.
C'est énorme.
Alors, elles ne sont pas toutes de même portée, hein, soyons clairs. Certaines sont de très grande portée, comme l'Arménia Sacra qui vient d'être inaugurée au Louvre il y a 2 jours, qui est une exposition de grande beauté, comme l'exposition à Biotech Nationale, comme celle à l'Institut du Monde Arabe, qui est aussi une magnifique exposition, l'Orient des photographes arméniens, ou la magnifique exposition Eva Zovsky au Musée de la Marine.
Qui est une superbe
exposition. Donc, chacune de ces expositions rend compte d'un aspect de la culture arménienne. Il y en aura aussi, pas simplement à Paris, il y en aura aussi à Lyon, enfin, dans les grands musées de Lyon, les grands musées de Marseille, à Saint-Étienne, où il y a un très beau musée d'art moderne, et où Paradjanov, qui est actuellement à l'École nationale des beaux-arts, donc tout à côté de chez vous, sera également invité, sera attendu au musée d'art moderne de Saint-Étienne. Donc, là, ça, je vous parle des expositions là, de grande ampleur. On a fait aussi, on a invité l'Orchestre Philharmonique de Yerevan, qui a fait une très très belle tournée à travers la France. Il y a eu le concert de Charles Aznavour il y a quelques jours à l'Opéra de Paris. Donc, à la fois les lieux les plus prestigieux de notre pays, ou des lieux appartenant, des lieux culturels de grande portée appartenant à des collectivités territoriales sont mobilisés. Et à côté de cela, de nombreuses manifestations qui sont souvent d'ailleurs le fait des associations arméniennes, puisque nous avons bien sûr en France une communauté arménienne importante.
Oui, il faut rappeler pour nos auditeurs qu'il y a à peu près, vous me coupez si je me trompe, il y a à peu près 500 000 Arméniens en France, alors que la République d'Arménie aujourd'hui ne dépasse pas 3 500 000 personnes.
Exactement.
Donc c'est considérable en France.
Mais bien sûr.
Et qu'il y a plus d'Arméniens dans le monde que d'Arméniens en Arménie.
Alors, les ordres de grandeur, ce ne sont que des ordres de grandeur.
On pense
que la nation arménienne, c'est 9 à 10 millions de personnes. 3 millions et quelques dans la République d'Arménie, 500 000 en France, plus d'un million aux États-Unis. Essentiellement.
Au Canada aussi.
Au Canada. Ils sont un peu moins nombreux, mais actuellement, c'est un lieu, bien sûr, qui attire beaucoup, notamment les Arméniens qui viennent du Proche-Orient. Et comme beaucoup de chrétiens du Proche-Orient, il y a une immigration assez forte en ce moment. Il y a également une importante diaspora en Russie qui est quand même... il faisait partie de ce monde.
C'est un peu la double nationalité, je pense, hein, d'une certaine façon.
Ils sont quand même très proches de ce monde, auquel ils ont appartenu pendant 80 ans. Hein, donc, tous les Arméniens parlent russe. C'est leur langue... c'est leur seconde langue apprise
puis,
à l'école.
Vu la situation géopolitique aujourd'hui, je pense qu'avec les Russes, il y a quand même certaines affinités, ou tout au moins, on s'épaule un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, ils sont plutôt pro-russes par rapport à d'autres comme les Géorgiens ou d'autres coins qui, eux, bon, il n'y a plus de réticence, disons, sans vouloir faire de la politique.
Alors, effectivement, moi, il ne m'appartient pas, je ne suis pas une spécialiste de géopolitique, mais je crois que ce que vous dites est tout à fait juste. Compte tenu de leur situation dans le Caucase, avec quand même deux voisins avec lesquels ils ont des difficultés évidentes, qui sont la Turquie d'une part et l'Azerbaïdjan de l'autre, deux peuples turcs, avec des frontières fermées avec l'un et l'autre. Il y a une frontière méridionale avec l'Iran, mais qui est sur une trentaine de kilomètres. Ah oui, une frontière un peu plus ouverte avec la Géorgie, qui leur donne accès à la mer Noire. Cela posé, il est évident que pour les Arméniens, incontestablement, ils jouent la protection que peut leur apporter la Russie. Ça, c'est...
Et c'est pas mauvais pour les Russes d'avoir un...
Et je crois que dans la situation où ils sont, je pense que c'est une carte qui paraît tout à fait naturelle et normale. Alors, il y a cela. Il y a aussi le fait quand même qu'ils ont fait partie de ce monde, comme toutes ces anciennes républiques soviétiques. Donc, les Russes sont arrivés dans le Caucase, ne l'oublions pas, dans les années 1830. Donc, c'est une imprégnation qui a presque un siècle, enfin, qui a plus d'un siècle et demi. Donc,
qui est à la fois importante et à la fois pas si lointaine que ça, finalement.
Dans leur longue histoire de 3000 ans d'années, vous avez raison.
Oui, parce que je m'intéresse à l'Arménie, et si vous voulez, tout Français ne peut que s'intéresser à l'Arménie, et nous connaissons tous, nous avons tous des amis arméniens. Mais la question qui se pose justement, que je vous pose, et les auditeurs je crois que seront très intéressés par la chose, c'est justement quels sont les liens de la France de toujours avec l'Arménie de toujours? Parce que vous parliez tout à l'heure d'exposition au Louvre avec des manuscrits tout à fait exceptionnels, mais quels sont ces liens? Est-ce que nous avons vraiment une amitié si longue, si forte? S'est-elle un peu estompée avec le temps? Y a-t-il eu dans les quatre derniers siècles des moments où cette amitié y a eu des reculs pour des raisons X, Y, Z? Ou quels sont les points forts de notre amitié avec l'Arménie? Si je me permets de vous poser cette question.
Mais je crois que vous avez tout à fait raison, parce que je pense que c'est cette longue amitié qui justifie le titre de l'année Arménie, mon ami. Alors, ces liens d'amitié, ils remontent aux croisades. Lorsque les croisés arrivent dans cette partie, enfin, au nord de Jérusalem, et avant la conquête de Jérusalem, ils rencontrent là la noblesse arménienne qui venait de quitter leur terre historique qui était un peu plus à l'est, et qui donc s'était déplacée vers la Méditerranée. Et immédiatement, entre Arméniens et croisés, et parmi ces croisés, essentiellement les Français, il y a eu une rencontre et une solidité dans la relation. Ça a été des alliés très sûrs. Des alliés tellement sûrs qu'en réalité, il y a eu beaucoup de mariages entre la noblesse arménienne et la noblesse française. Et le dernier roi d'Arménie était un prince de la maison de Lusignan, donc un prince poitevin, Léon V de Lusignan, qui par mariage a hérité de la couronne d'Arménie. Il perd
donc
son royaume.
Donc en quelle année ça pour
1375.
Nos auditeurs
1375. En 1375, voilà. Il perd son royaume, et après une pérégrination assez complexe, il se retrouve en France, où Charles V le recueille, l'accueille, lui donne, enfin d'ailleurs le fait vivre de façon très très généreuse,
royale,
enfin très royale exactement, et lorsqu'il meurt, il est enterré au Célestin avec les autres princes capétiens, et au jour d'aujourd'hui, son cénotaphe se trouve à Saint-Denis.
Ah oui, dis donc.
Alors ça c'est le point fort de notre relation. Juste un petit, peut-être une chose assez amusante, au jour d'aujourd'hui, en Arménie, le mot « monsieur » se dit « baron ». Baron.
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 Quand les Arméniens ont trouvé ce titre magnifique, parce que bien sûr tous ces croisés étaient barons, barons.
Donc quand on dit à monsieur un tel, ça va être baron un tel.
Baron Petrosian, baron Nalbandian, baron Kotcharian, c'est le nom, baron veut dire monsieur. Et cela vient de là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Bon, alors ça,
magnifique,
c'est. Nous
ça,
parlons
c'est
de l'amitié. Voilà une.
Oui, c'est quelque chose de fort.
Exactement,
ça, c'est fort.
Quelque chose de fort.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres mots français qui
merci.
Sont passés?
Merci. Ah, oui. Enfin, ils ont un mot à eux, mais le mot merci également est passé.
Tout le monde comprend.
Tout le monde comprend. Donc ça, c'est naturellement ça, c'est le socle de notre cette relation, mais qui a laissé des traces importantes de part et d'autre d'ailleurs. Et puis ensuite, les Arméniens perdent leur État. N'oublions pas que cette nation est restée sans État de 1375 à 1918.
Donc, sans État de 1375, du 14e siècle au 20e siècle, au début du 20e siècle. C'est important, ça.
Donc, ils étaient sujets de l'Empire ottoman, sujets de l'Empire persan, et à partir du 19e siècle, sujets de l'Empire russe qui descendait donc vers le Caucase. Et ils jouent un rôle d'ambassadeurs entre ces empires dont ils étaient des très loyaux sujets. Vous savez qu'il y a une chose qui est assez terrible à se dire. Les Ottomans, quand ils parlaient des Arméniens, les appelaient le peuple fidèle. Quand on sait comment ça s'est terminé, c'est une chose qui est bouleversante.
C'est hallucinant, oui, c'est hallucinant.
Et ces Arméniens...
Alors que justement, ils ont été soi-disant tués parce qu'ils étaient infidèles, c'est-à-dire étaient du côté russe, hein, il faut quand même le savoir.
Et pendant 4 siècles, les Arméniens étaient appelés le peuple fidèle. Et ce peuple fidèle, là où il était, donc soit dans l'Empire ottoman, soit dans l'Empire persan, jouait parce que c'était donc des populations chrétiennes, parce que ces gens avaient le sens du commerce et savaient plus peut-être que ne pouvaient le faire les Turcs ou les Perses. Ce qui s'est passé en Perse est très intéressant. Le Shah de Perse, qui avait déporté des populations arméniennes pour les amener à Ispahan, après qu'il les ait déportées, après qu'il les ait fait travailler à la construction...
En quelle année ça, juste pour...
1604.
1604, oui, juste, donc début du XVIIe, etc.
S'est aperçu qu'il avait des sujets qui étaient très doués pour le commerce. Eh bien, il les a encouragés dans ce rôle. Ah, ouais. Et donc, ces Arméniens, là où ils étaient, ont joué un rôle un peu d'interface, d'ambassadeur, venant commercer avec nous autres, avec nous Français, notamment. Et ça a donc créé toujours des liens. D'où le fait que les rois de France, ayant compris que si on voulait avoir des rapports commerciaux, soit avec l'Empire ottoman, soit avec l'Empire perse,
il fallait passer.
En clair, il fallait. Hein. Les Arméniens étaient une très bonne façon de...
Mais c'était des intermédiaires, des passeurs.
Et ceci a donc contribué à notre relation. J'essaye toujours de répondre à votre question.
Tout à fait.
Donc voilà, tout ça pendant ces siècles s'est développé. Et puis, on arrive à la fin du 19e siècle. Et là, il se passe, on va dire, un événement très fort, suivi d'un événement peut-être encore plus fort dans les mémoires, en 1915. Premier événement fort, c'est ce qu'on appelle le mouvement arménophile. Le mouvement arménophile, ça a été la mobilisation en France des élites intellectuelles, politiques et artistiques de notre pays, à propos du statut des populations arméniennes dans l'Empire ottoman. Quand l'Empire ottoman devient l'homme malade de l'Europe, il se rétracte, il perd ses possessions, et c'est à ce moment-là où la position des Arméniens devient de plus en plus délicate, en quelque sorte. Et
plus de passeurs, finalement, il y a un peu ça.
Ils encombraient, ils étaient un peu en trop, en quelque sorte. Voilà. Il y a eu des massacres à ces époques, parce que le génocide a été précédé de massacres. Et donc,
ce qu'on appelle le génocide, c'est quelle année alors?
C'est 1915.
1915, c'est ça, oui.
Voilà. Donc, il y a eu la mobilisation, à la fin du 19e siècle, de toutes ces élites, dont Anatole France. Anatole France a été un très grand arménophile, dont Clémenceau, dont Jaurès, dont Saint-Saëns, dont Vincent d'Indy,
beaucoup
de personnalités françaises. Et qui se mobilisaient pour dire, mais attendez, on ne peut pas laisser ces populations dans l'état dans lequel elles sont. Elles sont considérées comme des citoyens de seconde classe. On doit obtenir qu'elles puissent être considérées comme des citoyens de première classe. Et ça, donc, ça a beaucoup aussi marqué les esprits parmi les populations arméniennes.
Et donc, vous pensez, ce qui est très intéressant dans tout ce que vous dites, madame, vous pensez que le fait que ces amis de la France aient été, depuis très très longtemps, que nous ayons eu des relations très fortes, ce qui veut dire que pour les Français, pour les politiques français, pour les gens de culture française, toucher aux Arméniens, c'était au fond peut-être toucher un petit peu une partie d'eux-mêmes, finalement. Est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ce que je dis ou pas?
Oui, je crois que vous êtes dans cette longue relation que nous avions avec les Arméniens, a fait que cette mobilisation, elle s'est faite justement en s'appuyant sur cette... Sur cette vieille amitié, en disant, mais attendez, c'est tout de même un peuple doué, intelligent, avec qui on a eu, nous, des relations, dont on sait qu'ils sont très francophiles et francophones. Nous ne pouvons pas les laisser, on ne peut pas laisser ces populations...
Nous allons terminer cette première partie de notre émission par peut-être, si vous voulez, par quelques statistiques, si vous voulez. Et est-ce que ces statistiques, combien d'Arméniens ont-ils été reçus en France à la suite du génocide? Lorsque vers 1915-1916, combien de personnes ont pu venir se réfugier en France, à peu près?
Alors, je ne serais peut-être pas en capacité de vous donner des chiffres précis. J'ai envie de dire, c'est plusieurs dizaines de milliers, naturellement, d'aujourd'hui, fait cette... on est 3 ou 4 générations après. Ils sont arrivés presque tous un peu dans la même période, hein, entre 1920 et 1921, 22, 23, 24. Donc ce sont des populations qui d'abord ont été, si vous voulez, c'était un peu comme un coup de pied dans la fourmilière, hein, le génocide. C'est-à-dire que le 24 avril 1915, à Istanbul, les notables arméniens sont convoqués dans une sorte de bâtiment administratif et s'y rendent pensant qu'on a des instructions à leur donner, etc. Ils s'y rendent donc confiants. Et là, ils ont été éliminés.
Ah, aussitôt, comme
aussitôt,
ça.
Aussitôt. Et ensuite, on a décapité, si vous voulez, les gens en capacité d'organiser une résistance. Et
oui.
Dans les jours qui ont suivi, eh bien, il y a eu des ordres qui ont été donnés dans chaque ville laïée, c'est-à-dire toutes les préfectures, enfin les circonscriptions administratives de l'Empire, pour faire en sorte que les populations, toutes les populations arméniennes, on leur demandait de partir tout à faire cessante, et on les a fait marcher. Les hommes ont souvent été éliminés très vite, et puis ensuite on laissait marcher des personnes âgées, des enfants.
Et la technique de l'épuisement, quoi, finalement.
Puis on est descendu vers la Syrie. Mmh. On a des statistiques assez précises sur le nombre d'Arméniens qui se trouvaient dans l'Empire ottoman en 1914, 2 millions environ. Ce sont des statistiques qu'on recoupe de deux façons, enfin avec deux sources. D'une part, les églises arméniennes avaient des registres, naturellement, et puis d'autre part, les chrétiens payaient l'impôt, payaient même des impôts naturellement beaucoup plus importants que les Turcs. Donc il y avait aussi des registres fiscaux. Et cela donne donc une population d'environ 2 millions de personnes qui se trouvaient dans l'Empire ottoman. Donc tous ces gens, enfin, vous savez, on n'élimine pas 2 millions de personnes comme ça. Donc il y a eu, Dieu merci, des rescapés. Il y a des cas très étonnants, et ça mérite, je trouve, de s'y arrêter. Beaucoup de rescapés sont souvent des jeunes, naturellement, qui ont été vendus comme esclaves. C'est-à-dire qu'on les faisait descendre, et puis il y avait des populations arabes, notamment, qui, des bédouines ou autres, qui achetaient des enfants, moyennant. Et ça les a sauvés. Et il y a, par exemple, à Lyon, un monsieur qui s'appelait Monsieur Bulukian, qui a fini millionnaire, qui a laissé une fondation très importante, qui rayonne beaucoup à Lyon, et il a commencé sa vie comme esclave, acheté donc par des tribus arabes, racheté dans les années 1918-1919, très souvent par de riches Arméniens qui ont mis l'argent qu'il fallait, parce que les Arabes disaient, en disant, écoutez, nous on les achetait,
il faut bien les payer, etc. Nous allons peut-être nous arrêter une petite seconde avant de passer à une autre partie de notre émission. Alors je signale à nos auditeurs que je reçois Nelly Tardivier en Raux, commissaire générale de l'année de l'Arménie en France, et qui, bien entendu, vous pouvez télécharger cette émission de façon gracieuse dans notre médiathèque.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Chers auditeurs de Canal Académie, je reprends l'entretien avec Madame Nelly Tardivier-Enraud, commissaire générale de l'année de l'Arménie en France. Et, chère Madame, nous avons donc évoqué un peu d'histoire, et d'histoire douloureuse, il faut bien le dire, car l'Arménie, c'est une histoire aussi douloureuse, difficile, mais des gens ô combien attachants. Et j'aimerais maintenant savoir un petit peu, pour vous, quels seront les moments, ou quels sont les moments forts de cette année de l'Arménie? Donc, j'aimerais que vous nous donniez un peu d'une chronologie, si c'est possible, quelques bons moments forts de cette année d'Arménie.
Alors, le lancement en Arménie a été, bien sûr, un moment très très fort. Monsieur Jacques Chirac s'est rendu en Arménie.
C'était quand? C'était l'année dernière?
C'était
ça,
le 30 septembre 2006.
Septembre 2006.
Les dates de l'année d'Arménie, elles ont des dates. Enfin, l'année d'Arménie a des dates. 21 septembre, qui est la fête nationale arménienne. 14 juillet.
21 septembre 2006.
À 14 juillet 2007. Donc ça a été lancé là-bas, par le président de la République.
Donc ça a commencé là-bas.
Qui est venu faire un voyage d'État. C'était la première fois que la République d'Arménie recevait un chef d'État occidental. Ça a été un moment très fort
vous
d'émotion.
Y étiez, ou...
Bien sûr. Ça a été un moment merveilleux. Beaucoup d'émotions. La République d'Arménie a fait les choses magnifiquement. Et avait notamment demandé à Charles Aznavour de venir faire un concert qui était fait en public. Enfin, bien sûr en public, mais en plein air, sur la grande place de Yerevan, qui est un lieu magnifique. Il y a une place splendide.
Il y avait combien de personnes?
100 000 personnes.
Ah, 100 000
personnes.
C'est joli.
Et Charles Aznavour, est venu chanter devant les siens, en quelque sorte.
Quelle voix,
Sa voix, sa présence, cette espèce à la fois de pudeur, parce que c'est un homme qui a énormément de pudeur et qui néanmoins, quand il chante, il donne tout de lui-même.
Du charisme.
Donc ça, c'était un moment très très fort. Il y a eu une présence française avec un certain nombre d'événements culturels envoyé par la France en Arménie. Et puis, après ce grand temps fort, on est revenu en France, en quelque sorte. Et j'ai envie de dire, c'est en ce moment, depuis janvier et février, que nous avons de grands événements qui ponctuent l'année. On parlait d'Arménia Sacra, l'exposition au Louvre, l'exposition à Ivazovski, enfin déjà
qui
l'exposition...
Qui donne envie d'y aller. Et l'exposition à Ivazovski est très très belle.
Une exposition magnifique aussi à la Conciergerie sur les 12 capitales d'Arménie, qui est très intéressante parce que c'est presque une... Quand on voit cette exposition, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour comprendre l'histoire complexe hein, de cette nation arménienne. Une très belle exposition sur un de leurs grands peintres qui s'appelle Sarian, qui est à Issy-les-Moulineaux. À l'École des Beaux-Arts, une exposition par Adjanov. La Bibliothèque Nationale nous a sorti son plus beau fonds de manuscrits arméniens. On a fait venir...
Ils en ont beaucoup, hein, je crois.
C'est la plus belle collection de manuscrits arméniens hors les institutions arméniennes. Et elle s'inscrit dans cette amitié dont on parlait, les rois de France.
Même par rapport à la Russie.
La collection qui est en France est la plus belle collection hors les institutions arméniennes, c'est-à-dire ce qui est au Maténa d'Aran, qui est leur bibliothèque des manuscrits, ou à Saint-Lazare, cette merveilleuse île dans la lagune vénitienne, où il y a une communauté arménienne qui détient aussi un patrimoine extraordinaire. Donc la France, de façon certaine, détient le plus beau fonds de manuscrits arméniens hors les institutions arméniennes.
Très important, ça. Très, très important.
Alors ça, nous sommes en ce moment dans ces temps forts, et nous avons maintenant à Lyon, à Marseille, à Arles, au musée d'Arles, il va y avoir une exposition très importante sur l'Arménie très chrétienne. N'oublions pas que l'Arménie, c'est 3000 ans d'histoire et qu'il était important aussi de parler de avant le christianisme. Si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, l'identité arménienne a été fortement marquée par le fait de cette adhésion très précoce au christianisme, dès 301, et par sa langue.
Le mont Ararat, qui est l'endroit où l'arche de Noé est venue s'échouer.
Il ne faut pas dire soi-disant.
Il est, bien entendu.
Les monts Ararat, il y en a deux. D'ailleurs, on oublie qu'il y en a deux. Six et Massis, c'est des montagnes magnifiques. Comme vous le savez, elles sont en Turquie, c'est de montagne.
Oui, tout à fait, mais elles sont juste devant les Arméniens.
On les voit, c'est quelque chose d'ailleurs de très prenant. On les voit, elles sont présentes, ces deux montagnes sont très très présentes, et elles sont à la fois hors d'atteinte en quelque sorte. Donc il y a quelque chose de très fort dans
l'homme. C'est fort, pesant, c'est douloureux. C'est vrai qu'il y a une douleur quand on pense quand même à toute cette histoire très émouvante. Il y a tout de même la souffrance humaine qui est là. Enfin, tous les Arméniens que j'ai rencontrés au Canada ou ailleurs, on a senti ça, à la fois cette générosité et ce cœur qui se ferme en pensant à tous ceux qui ne sont pas là autour d'eux. Et ça, c'est très, très émouvant, je dois dire.
C'est sûr qu'ils ont vécu, et surtout sur le dernier siècle, ce qui s'est passé au début du 20e siècle a été quand même l'épreuve absolue. Hein, ça, c'est une certitude, et qu'ils en sont tous marqués, que ce soit ceux qui sont dans la République ou ceux de la diaspora. Ça, c'est
Alors, il y a juste une petite question. Nous allons reprendre juste pour les festivités. Alors, c'est jusqu'au mois de juillet. Donc là, maintenant, nous sommes dans l'amphore. Vous avez utilisé ce terme qui est très très joli, d'ailleurs très marin et qui rejoint un peu la peinture même arménienne. Et à partir de mai-juin, juillet, justement, comment ça va se terminer cette année de l'Arménie?
Alors donc nous avons des expositions qui vont scander l'année jusqu'à la fin. En avril, on a une très grande exposition à Marseille sur la magie de l'écrit, une exposition majeure.
Magie de l'écrit, c'est-à-dire ça, la magie de l'écrit.
Et parce qu'il y a une en 405, un moine de génie, Mesrop Mashtots, a donné à l'Arménie un alphabet qui est leur propre alphabet. C'est-à-dire que cette langue était une langue qui était parlée, il n'y avait pas d'écriture. Et quand l'Arménie adhère au christianisme en 301, et pour avoir accès aux textes religieux, ils sont obligés de passer par le grec ou par le syriaque. Et Mesrop Mashtots se dit, il faut absolument que nous puissions y avoir accès directement. Donc il invente un alphabet.
Il invente un alphabet. Et combien y a-t-il justement d'alphabets sur cette terre?
Ça, je ne pourrais pas vous répondre.
Voilà, tout d'un coup, une question qui me...
Mais si vous voulez, très souvent, quand même, si vous voulez, ce qui est intéressant dans l'alphabet arménien, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Non, moi non plus.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le fait quand même d'une petite nation.
Oui, c'est extraordinaire.
Nous, par exemple, nous avons un alphabet qui est partagé quand même par, on va dire, la moitié de la planète, probablement.
Tout à fait.
Nous, Français, nous partageons avec la moitié de la planète un même alphabet. Eux, cette petite nation, a son propre alphabet. Et alors, moi, j'y vois quand même, si vous voulez, cette espèce de désir, cette obstination magnifique des Arméniens, comment pourrais-je dire, à maintenir une identité.
Et fonder, des fondations restent.
Exactement.
Les fondations. L'affaire des 12 capitales, c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'en France, on ne peut pas parler de 12 capitales. Donc, ils ont. Et puis, alors, ce berceau de la chrétienté est aussi quelque chose de très émouvant, et d'ailleurs qui nous lie. Je pense que, quand même, ce lien, même si nous n'avons pas plus de relations, où nous avons eu plus de relations avec les Libanais, il y a quand même cette relation, les croisades, nous avons aussi cette relation assez exceptionnelle avec les Arméniens à cause du phénomène chrétien.
Incontestablement. Incontestablement. On revient donc aux croisades, quand ils se sont rencontrés, ces deux peuples chrétiens qui se sont immédiatement épousés en quelque sorte. Oui, ça joue un rôle important.
Je dirais, malheureusement, il faut arriver à un moment donné à conclure. Peut-être vous pourriez nous parler, nous évoquer pour nous la dernière festivité, celle qui approchera de juillet, peut-être le coup d'adieu, le feu d'artifice, il y a feu d'artifice, et peut-être aussi nous parler de quelques personnalités arméniennes en France. Je veux dire, des gens, il faut quand même les saluer au passage, je crois que c'est important cette année de l'Arménie.
Incontestablement. Alors,
pour le feu d'artifice.
Le feu d'artifice, ce sera la fête de la musique, 21 juin, la fête de la musique, où il y aura une coloration arménienne. En matière de musique, les Arméniens sont un peuple incontestablement mélomane.
Mais ils ont un instrument privilégié ou pas?
Oui, alors il y a cet instrument extraordinaire qui s'appelle le doudouk.
Le doudouk.
Le doudouk. Le doudouk, c'est une petite flûte rustique en bois d'abricotier qui demande d'ailleurs beaucoup de science et beaucoup de vigueur physique pour pouvoir la faire vibrer, cette flûte, et qui donne des accents, qui donne des musiques d'une douceur et d'une douceur, oui, je pense que c'est le terme, exceptionnel. Alors, le jour de la fête de la musique, on va écouter beaucoup de doudouk à travers le pays.
Mais pourquoi en bois d'abricotier? Est-ce que c'est le seul endroit où on fait des flûtes en bois d'abricotier?
Je crois que alors d'abord, l'abricotier, l'abricot est un fruit national en Arménie. La prunus arméniaca, c'est le terme.
Ah, c'est même l'origine.
Bah, exactement, c'est l'origine. C'est l'origine. Alors, donc, ils ont beaucoup d'abricotiers. Il se trouve que, après tout, chaque bois, chaque essence a sa spécificité. Et le bois d'abricotier donne, une fois que c'est devenu cette flûte, le son vient aussi du fait que ce soit dans ce bois-là et pas dans un autre bois.
Ah oui,
si la flûte était faite en bois de cerisier ou en chêne, elle ne donnerait pas le même son. C'est propre à cet abricotier.
Alors justement, est-ce qu'en France, nous avons des musiciens connus de la communauté arménienne ou pas, des noms qui émergent tout de suite?
Alors, en parlant de musique traditionnelle, nous avons probablement l'un des meilleurs joueurs de doudou, qui s'appelle Levon Minassian. Il vit à Marseille. Il se rend très souvent en Arménie. Et c'est probablement une des stars, entre guillemets, du doudou.
Est-ce qu'il doit exister un botta des personnalités arméniennes, je présume, ou un carnet d'adresses ou quelque chose de particulier, non?
Alors, je ne sais pas, mais enfin, si vous voulez, les personnalités d'origine arménienne qui ont leur part de célébrité, nous les connaissons. Bien sûr, Charles Aznavour. Charles Aznavour qui a cette phrase merveilleuse, parce que je crois qu'elle mérite d'être dite, quand on l'interroge sur le fait, mais êtes-vous arménien, êtes-vous français? Il répond, 100% français, 100% arménien.
Ah, c'est magnifique,
ça. Phrase merveilleuse.
Puis, c'est le cœur, c'est la générosité, c'est bien.
Et puis, il y a eu un homme aussi qui était arménien, qui était proche qui était de cette maison, si je puis dire, qui était Henri Verneuil, puisqu'il a été reçu à l'Académie des Beaux-Arts.
Grand cinéaste,
de son vrai nom, Achot Malakian, qui est arrivé à l'âge de 4 ans avec ses parents sur un bateau à Marseille. Et lorsqu'il a été accueilli sous la coupole, il a fait un magnifique discours. Il a rappelé son arrivée en France, où lorsqu'il était sur le bateau, son père lui a mis la main sur l'épaule, a pointé du doigt le rivage de Marseille qui approchait. Il a dit « Fils, la France ».
Je vous remercie infiniment, Madame Nelly Tardy-Vianro, commissaire générale de l'année de l'Arménie en France. Hélas, on aimerait vous écouter beaucoup plus, mais nous le ferons certainement une prochaine fois. Chers auditeurs, vous pouvez parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque. Bonne journée.